un œil ailleurs. Un petit tour de la planète. Totalement subjectif.
Notre petit tour de la planète totalement subjectif commence aujourd'hui en Palestine avec, une fois n'est pas coutume, une bonne nouvelle tombée en début de mois. La Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur des crimes de guerre en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Autant dire que l'annonce est historique pour les associations de défense du peuple palestinien. Alors l'enquête portera sur les crimes commis depuis juin 2014 et sur le projet de Netanyahou d'annexer la Cisjordanie. Forcément, l'annonce de Fatou Ben Souda, la procureure générale de la CPI, a moyennement emballé le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui a brandi l'argument antisémite pour s'offusquer de la décision de la CPI. Depuis des mois, Netanyahou faisait pression sur ses camarades alliés, notamment Trump, pour éviter cette enquête. Il faut savoir que les États-Unis ont imposé des sanctions économiques et des restrictions de visa à l'équipe de Fatou Ben Souda, décision confirmée par Biden. Quant au Canada, il a menacé de retirer son soutien financier à la CPI si elle lançait cette enquête. Eh oui, voilà comment fonctionne la justice internationale en 2021. Et puis il faut aussi savoir que la CPI se basera sur les enquêtes menées au sein des pays concernés. En d'autres termes, il va falloir que les États israéliens et palestiniens, car les crimes commis par des Palestiniens sont aussi concernés, fournissent eux-mêmes des éléments de preuve contre leurs ressortissants accusés, ce qui ne va pas être une mince affaire, car selon B'Tselem, la première organisation israélienne de défense des droits humains en Israël, le système d'auto-investigation israélien est, je cite, « un mécanisme de blanchiment qui protège les directions militaires et politiques de leurs responsabilités ». Alors Fatou Ben Souda préfère être clair et annoncer la couleur en déclarant que la CPI n'est pas la panacée et que les victimes devront faire preuve de beaucoup de patience d'ici la fin de l'enquête. Sans transition, on file en Belgique où l'évêque d'Anvers et responsable par intérim du clergé belge a poussé un coup de gueule contre le Vatican. Et oui, on se refait pas, le 15 mars, le Vatican a déclaré que les unions entre homosexuels relèvent du péché et que donc l'Église ne peut en aucun cas unir de couples du même sexe. Du coup, Johann Bonny s'est fendu d'une tribune dans le journal des Standards le 17 mars où il écrit, je cite, « Comment je me sens après ce responsum ? Mal. J'ai honte par procuration pour mon Église. Je présente mes excuses à tous ceux pour qui ce responsum est douloureux et incompréhensible. Leur douleur à l'endroit de l'Église est aujourd'hui la mienne. » Et l'évêque d'Anvers en rajoute une couche sur la notion de péché. Il écrit « Le péché est l'une des catégories morales et théologiques les plus difficiles à définir et donc l'une des dernières que l'on doit accoler à des personnes et à leur façon de vivre ensemble et certainement pas à des catégories générales de personnes. » Alors loin d'être isolé, hein, Johann Bonny a reçu le soutien des évêques belges pour sa tribune. Il faut dire qu'en Belgique, il n'est pas rare que des prêtres unissent des couples homosexuels. Bref, une fois encore, on salue les Belges pour leur souffle de fraîcheur décalé. Notre petit tour de la planète se poursuit par les Philippines. Pour revenir sur la journée du 7 mars, qui a été particulièrement sanglante pour les défenseurs des droits de l'homme. Ce jour-là, 9 militants connus pour leur opposition au pouvoir dans les domaines du travail, du droit des paysans et de la justice climatique ont été assassinés par les forces de sécurité. Deux jours avant, le président philippin Rodrigo Duterte avait clairement demandé à la police et aux militaires de tuer et d'achever les rebelles communistes. Eh ben ouais, il fait pas bon être qualifié de rouge aux Philippines, ce en raison d'une guérilla communiste qui sévit depuis 40 ans dans les régions les plus pauvres du pays. Duterte a donc déclaré la guerre au Parti communiste et aux groupes qui lui sont liés, notamment sa branche armée, la Nouvelle Armée du Peuple. Alors le hic, c'est que du coup, tout opposant est qualifié de rouge. Bah ouais, c'est bien plus facile de mettre tout le monde dans le même panier et de prétexter la lutte contre l'insurrection pour faire taire les militants des droits de l'homme. Et on termine notre petit tour de la planète totalement subjectif par une virée chez Amazon aux États-Unis. Figurez-vous que des salariés du géant de l'exploitation de main-d'œuvre ont eu l'idée de monter un syndicat. Jusqu'au 30 mars, les presque 6000 employés de l'entrepôt de Bessemer en Alabama votent pour créer le premier entrepôt syndiqué de la firme aux États-Unis. Ce qui, allez savoir pourquoi, ne convient pas, mais alors pas du tout au Big Boss, qui voit là des mesures restrictives à sa liberté de faire comme il veut pour faire toujours plus. Du coup, la direction lutte à coups de banderoles contre le syndicat et de flyers distribués jusqu'en dans les toilettes. Amazon offre même une prime de 2 000 $ aux salariés insatisfaits de leurs conditions de travail pour qu'ils s'en aillent. Bah ouais, parce que si l'entrepôt de Bessemer se syndiquait, ça pourrait bien faire boule de neige chez Amazon dans tout le pays. Même Joe Biden s'est invité dans le débat en déclarant à la radio « Ce n'est pas à moi de décider si quelqu'un doit adhérer à un syndicat, mais laissez-moi être encore plus clair, ce n'est pas non plus à l'employeur de le décider ». Allez, travailleurs d'Amazon de tout pays, je vous laisse sur cette déclaration et vous retrouve ici même dans 15 jours.